Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour notre rendez-vous mensuel avec le grand écran. Comme d'habitude, deux films au sommaire de cette émission. Le premier vient de sortir et est à l'affiche du cinéma L'ABC à Toulouse. Il a pour titre Une part manquante et il a été réalisé par Guillaume Senez. En seconde partie de ce numéro, changement complet d'univers puisque nous allons revenir sur le premier film de la série des Don Camillo, Le petit monde de Don Camillo, tourné en 1952 par Julien Duvivier, Moteur. Pour vous parler de ces deux films, je suis heureux de retrouver Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Bienvenue à tous les deux, chers camarades cinéphiles. Nous allons donc nous intéresser d'abord à Une part manquante, le film que vous avez retenu pour le ciné-parole que vous animez à l'ABC mardi prochain, le 19 novembre, à 14h30. Ce film a donc été réalisé par le cinéaste franco-belge Guillaume Senez, dont c'est le troisième long-métrage. Louis-Marie, vous allez nous dire quelles étaient ses deux précédentes réalisations dans le domaine du long-métrage.
En 2016, alors il a fait de nombreux courts-métrages, mais en 2016, il réalise son premier long intitulé Keeper, le mot anglais, sélectionné dans plus de 70 festivals, dont Toronto, Locarno, Angers. Pour les plus fameux, il a eu le grand prix du jury dans pas mal de ses manifestations. Il a plus d'une vingtaine de prix, rien que pour ce film. Le suivant, c'est Nos Batailles, qui a été sélectionné, lui, à la Semaine de la Critique, à Cannes, en 2018. C'est son donc deuxième long métrage. Et il a récolté 5 Magritte du cinéma. Le Magritte est au Belge que le César est au Français. Et 5 Magritte, ça fait beaucoup, dont meilleur film et meilleure réalisation. Et d'ailleurs, dans Nos Batailles, on retrouve l'acteur principal d'Une part manquante, à savoir Romain Duris.
Dont nous allons reparler. Keeper, c'était l'histoire d'un jeune couple dont la femme tombe enceinte. Ils sont très jeunes et finalement, bon, les parents essaient de les dissuader, il faut garder le bébé, mais ils le gardent. Nos Batailles, c'était l'histoire d'un couple dont la femme disparaît du jour au lendemain. Et l'homme se retrouve, le père se retrouve à élever seul ses deux enfants. Donc vous avez remarqué, il y a un point commun dans tout ça, c'est la parentalité. Et là, on va encore parler de la parentalité avec Une part manquante. C'est au cœur de ce troisième long-métrage de Guillaume Senez, la parenté masculine pour le coup, mais avec un angle et une histoire bien différents de Nos Batailles. On va écouter la bande-annonce qui résume assez bien, il me semble, l'intrigue et le propos du film, les questions qu'il aborde.
Comment tu es passé du chef cuistot à taxi ?
C'est ma femme. Ma fille.
Ici, c'est le premier qui prend l'enfant qui a la garde.
Elles sont parties, mais j'étais... Je pouvais pas accepter, tu vois, et... Depuis 9 ans,
je me suis mis à chercher Lily un peu tout le temps, tu vois. Le jour, la nuit, partout, dans tout le pays.
Konnichiwa.
Domo.
La stabilité de l'enfant, c'est qu'il voit ses deux parents,
ouais,
c'est pas ça?
Pas ici.
Papa, j'ai retrouvé Lily.
Jérôme, c'est la 10e fois que tu me l'as fait, celle-là.
Je sais.
C'est Lily, putain!
Tu sais, Lily ne sait pas tout ce que tu as fait pour la retrouver. Je te suggère d'aller lentement.
Vous savez, c'est un Saladani qui a envoyé tout le monde.
Il t'a dit quoi?
Ce que j'aurais dû faire il y a 9 ans.
Tu vas pas pouvoir continuer à faire le taxi sans lui dire qu'il t'aime.
Elle t'a oublié. Steven ne connaît ni quand il fait.
J'ai peur de la perdre. Je peux pas divorcer, sinon je vois pas ma fille. Je peux pas.
Voilà la bande-annonce d'Une part manquante, troisième long-métrage de Guillaume Senez. Bande-annonce qui donne aussi une idée de l'ambiance de ce film. On y entend plusieurs de ses protagonistes, qui sont peu nombreux d'ailleurs. Qui sont les personnages principaux du film et les acteurs qui les incarnent à l'écran? On va commencer par là.
On a parlé de Romain Duris, qui interprète le rôle principal, celui de Jérôme, plus connu sous le pseudo de G.
J-A-Y.
Jérôme J. D'Acosta, qui est un homme, justement, on l'a compris dans la bande-annonce qu'on vient d'entendre, qui ne voit plus sa fille depuis 9 ans, puisqu'il était l'époux, et il est toujours d'ailleurs l'époux d'une jeune japonaise, et quand ils se sont séparés, elle est partie avec l'enfant, et c'est très prégnant au Japon, ça se passe aussi ailleurs dans le monde, mais très prégnant au Japon, c'est celui qui part avec l'enfant qui en a la garde. Et l'autre
est interdit.
Peut s'asseoir sur ses droits.
Ah oui, en gros,
il n'y a pas, il n'a pas de droit.
Je vais être un peu vulgaire en le disant, mais c'est le premier qui dégaine qui emporte la mise. Et, c'est, oui,
et
pour
l'autre est hors jeu.
Oui,
il n'a aucun
assez,
droit.
Si, il a l'obligation, lui, c'est même pas un droit, de payer la pension.
Oui. En plus, c'est ça, c'est qu'on lui enlève sa fille et il paye la pension, mais il ne peut pas l'avoir.
Et la pension est automatiquement prélevée sur le salaire. Autrement dit, si on n'a pas de travail, il est certain que là, on est dans une posture très, très délicate.
Ouais.
Alors, aux côtés de Jay, il y a Jessica, qui est dans le même cas que lui, mais c'est tout nouveau pour elle. Jessica vient pour essayer, elle aussi, de revoir son fils ou sa fille.
Oui. Son fils, je crois.
Son fils. Et de cette façon, on fait la connaissance d'une avocate, une avocate japonaise, parce que vous l'avez compris, ça se passe au Japon.
À Tokyo.
Et cette avocate conseille, aide toutes les personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui se retrouvent dans cette situation. Alors, je ne sais pas si la comparaison vaut, mais en tout cas, on voit un moment où ils sont tous réunis ensemble, où ils parlent de leurs problèmes. Ça fait un peu Alcoolique Anonyme, mais là, c'est parents...
C'est les assos, une association dans laquelle entrent les parents à qui on a enlevé leur enfant.
Et c'est une façon de parler, de se soulager d'un certain poids, dans la mesure où les gens qui sont là sont en mesure de comprendre ce qu'ils peuvent ressentir. D'ailleurs, il y a un nouveau membre du groupe qui arrive au moment où le spectateur découvre aussi ce groupe, qui est dans une situation particulièrement terrible. On comprend qu'il est très très mal et qu'il a fait un geste contre lui-même, puisqu'à un moment, il ramène sa manche vers le bas.
On imagine voit les poignets, oui.
On imagine
les poignets qui ont été tailladés. Oui.
Qui s'est tailladé les poignets.
Et on voit aussi, à l'occasion, que c'est un travail assez rémunérateur pour les avocats. Ils ont toute une clientèle.
Oui, parce que j'ai vérifié, apparemment, il y a 150 000 à 200 000 enlèvements d'enfants au Japon par an. Alors, il y avait, parce que cette loi vient de changer, hein, semble-t-il. Hein.
Alors, le film va décrire le parcours de ce père qui... Quand on le découvre au début du film, il est chauffeur de taxi, c'est comme ça que...
Alors qu'il est cuisinier à la base. Hein.
À la base, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Il est chauffeur de taxi la nuit, en particulier. Il travaille pour une entreprise.
Bah, d'ailleurs, ça se passe beaucoup la nuit, c'est souvent très sombre, les images. Hein.
D'ailleurs, on peut considérer, puisqu'on parlait des personnages, entre parenthèses, que l'autre personnage important du film, c'est la ville elle-même, c'est Tokyo. Qu'on découvre la nuit, au hasard des courses que fait le taxi, mais aussi la façon dont les personnages la parcourent pour aller chercher la fille, pour aller chercher son enfant, pour se rendre au tribunal, etc. Il y a une présence, enfin, parler d'une présence pour une ville, c'est un peu exagéré, elle est nécessairement là, mais là, elle fait partie de... C'est un peu comme un monstre qui absorbe ces personnages, et c'est très perceptible la nuit en particulier, parce que c'est une ville très, très éclairée, beaucoup de publicité, en tout cas ce qu'on en voit.
Oui, c'est souvent assez coloré, ce qu'on voit,
très
même
coloré.
Un peu criard, voire agressif.
Et on voit en même temps comment dans cette errance nocturne, et puis aussi le début du jour, le chauffeur de taxi, Jay, est à la recherche, mais il n'a pas d'indice. Hein.
Depuis 9 ans, il la cherche, il ne l'a pas trouvée.
Et puis, il a peu de chance de la reconnaître. Elle avait 3 ans quand il l'a quittée.
Et
9 ans après...
C'est une pré-ado. Hein.
C'est une pré-ado. Et il y a le hasard qui fait qu'il y a une jeune fille qui a besoin du taxi parce qu'elle a un problème.
Elle s'est blessée.
Elle s'est blessée. Et donc, il est le chauffeur de cette jeune fille. Et puis, un jour, l'amenant à son collège, une amie l'appelle Lily. Et on a entendu ça dans la bande-annonce. « Mais j'ai retrouvé Lily !» Il dit à son père. Alors le père dit « Oui, bon, et bon, ça va, hein, ça fait 10 fois que tu me le fais. »
C'est une position assez inconfortable. Je pense à l'acteur qui joue le père de Jay. C'est Patrick Descamps
qui est
remarquable, mais qu'on ne voit qu'en FaceTime.
Oui.
Puisqu'il est en France, lui, il est au Japon. Et il y a des rapports comme ça qui sont importants, finalement.
Absolument,
avec son père.
Parce qu'on le voit peu, le père.
Oui, mais...
à chaque fois qu'on le voit, il est évidemment très loin.
Oui.
Il souffre de ne plus voir son fils, lui aussi.
Oui.
Il a un enfant qu'il ne voit plus, mais qu'il ne voit plus qu'à travers le virtuel,
l'écran
si on peut dire.
Oui.
L'écran interposé. La mère, il n'en est jamais question.
Jamais.
Vous avez remarqué qu'il n'est jamais question de la mère. On ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas. Bon voilà, il n'en est jamais question. Et donc, il y a ce fils qui cherche sa fille, et ce grand-père qui a un fils qu'il ne voit plus, qu'il essaye de... Parce qu'en fait, quand ça commence, Jay s'apprête à repartir en France. Parce qu'il a renoncé, quoi.
Oui,
il
ça ne va pas marcher,
c'est plus possible. Et il sent qu'il n'a pas d'avenir dans cette ville. Il est cuisinier, son père lui a acheté un restaurant, ils sont en train de racheter une affaire.
Il était chef cuisinier, voilà. Hein, il avait...
Oui, il était dans un resto gastronomique, c'est ce qu'il explique. Voilà. Hein. En revanche, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec la mère. Pourquoi il y a eu la séparation et pourquoi elle n'a plus voulu qu'il puisse voir sa fille.
Si, il reconnaît à un moment, Jay, qu'il aura pourri la vie.
Plus tard.
Au début, on ne sait pas.
Je pense qu'il fait référence aussi, quand il dit qu'il aura pourri la vie, au moment où elles sont parties.
C'est ça.
Il a assiégé la famille de la maman.
Il a été violent, il semble-t-il, il a été violent quand même.
Parce qu'il voulait voir sa fille. Il se trouve qu'on a l'occasion de voir celle qui fut sa belle-mère. À un moment, elle n'est pas très tendre avec
lui. D'ailleurs, on voit d'abord sa belle-mère avant son ex-femme.
Oui. Et elle est pas très tendre avec lui. Et comme ça aussi, on voit comment ça se passe dans le cadre de la séparation d'un couple et avec le problème de l'enfant. Et on voit aussi ce que sont un peu les coutumes et la façon de vivre dans la société japonaise.
Oui, il y a une dureté quand même dans les rapports humains. Je me rappelle dans les années 80, ça c'était assez connu en France. D'ailleurs, le Japon n'avait pas une très bonne image dans les années 80. Ils nous inondaient avec leurs contrefaçons, ils copiaient tout ce qu'on faisait. Voilà, bon, c'est un peu l'image qu'ils avaient. Et après, cette image aujourd'hui est bien meilleure. Beaucoup de gens d'ailleurs fantasment sur le Japon, ce qui est le cas d'ailleurs de Romain Duris. Je sais que c'est un grand amoureux du Japon. C'est pas pour rien qu'il s'est beaucoup investi dans ce rôle. Et là, on voit ce qu'est la société japonaise aujourd'hui quand même. Hein.
Oui. Alors, il y a des codes très stricts qu'il ne faut surtout pas enfreindre. Élever la voix, c'est le scandale. Enfin, il faut éviter le scandale, ne pas élever la voix, ce qui est très très grave. Il faut rester calme, voire enfermé avec ses propres problèmes. Il y a aussi tous les codes de conduite. Hein. C'est-à-dire que la loi est indiscutable. Enfin, on ne peut rien négocier. C'est la loi, c'est la loi. Enfin, c'est ce que présente le film. Et il n'a aucune issue possible pour récupérer sa fille. Sauf que
l'aspect humain n'entre jamais en ligne de compte, semble-t-il.
Il ne s'exprime pas de la même façon que chez nous.
Voilà.
Oui, et on le voit dans tous les rapports, et aussi dans les rapports patron-employé, oui. Où le moindre écart...
Ah oui, sans faute...
Le moindre écart est sanctionné, il n'y a pas de deuxième chance, on est mis à la porte immédiatement.
Il n'y a plus de politesse ou de courbette, c'est... ramène immédiatement la voiture, elle n'est pas à toi, et mais ça se termine.
C'est extrêmement violent, même dès avant cet épisode, le moment où il prend la voiture, où il est mis à la porte avec son collègue japonais, ouais. Et le patron est terrible. Et il est terrible dans leur lieu, non, vous sortez tous les deux, et c'est sans appel.
Oui, oui.
Il n'y a rien qui peut...
Il n'y a pas de pardon.
Exactement. Il n'y a rien qui peut faire qu'on peut nuancer son jugement. Rien.
Vous avez manqué à la règle, vous avez manqué au code de l'honneur, c'est fini. Ouais.
Et là, ça se termine en prison.
Alors, on parle des détails de la vie quotidienne. Il se trouve que le personnage, Jay, a un ami qui est libraire. Alors là, de temps en temps, il va voir ce libraire qui est un personnage. Oui. Alors, rare parce qu'il ne correspond pas au profil qu'on peut avoir du japonais.
C'est un personnage qui a beaucoup de compassion, qui écoute... qui comprend ce qu'il vit et qui aime beaucoup la culture française en plus.
Oui, et parce qu'il apprend le français et il aime bien les livres, donc évidemment. Il y a aussi le fait, par exemple, quand il va, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les bains, il va au bain et à un moment, il oublie de couvrir cacher. Son tatouage.
Oui.
Et les tatouages, il ne faut surtout pas qu'on les voit parce que c'est seulement... les yakuza qui en portent, et les yakuza ont très mauvaise réputation. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, le moindre tatouage, même s'il a un tatouage pas si volumineux que ça, mais il est obligé de se mettre une espèce de pansement dessus pour qu'on ne le voit pas.
Alors, comment ça va se passer avec sa fille? Parce qu'au début, il ne lui dit pas qu'il est son père, même s'il comprend très vite qu'il l'a retrouvé. Comment faire pour le lui faire comprendre? Et au début, cette fille, c'est une petite japonaise, même si elle est franco-japonaise, elle s'exprime très peu, elle est très peu expressive avec lui. C'est un chauffeur de taxi, elle n'a pas de relation. Il va réussir à entrer en relation avec elle. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Je vous laisse le raconter, parce que c'est très émouvant, ça, le moment où elle va comprendre que c'est bien son père.
Oui. Alors, il l'approche avec beaucoup de délicatesse parce que lui, il aurait été plus...
Depuis le temps qu'il attend, vous rendez compte.
Voilà, enfin, il a retrouvé sa fille. Mais l'ami lui dit, attention, et l'avocate, faut y aller doucement.
Mais parce qu'on ne l'a pas dit, sa fille ne le reconnaît pas du tout.
Ah ben non.
Elle connaît pas
ce monsieur. C'est un chauffeur de taxi. Et puis, à un moment, elle a un devoir à faire sur les anguilles. Bon...
Dont les Japonais sont très friands.
Oui. Et alors... Il essaie de parler avec elle et puis il lui donne un peu des conseils. Et puis il va trouver son ami libraire pour dire « voilà, je voudrais un livre sur les anguilles » et il lui donne un très beau livre sur les anguilles. Et ce livre va servir d'objet transactionnel, comme on dit, pour dire…
Transitionnel,
pardon, oui.
Il n'y a pas d'achat. Là.
Non.
Encore que…
Si, enfin, il a acheté le livre, mais pas la fille.
Mais pas la fille, voilà.
Et bien, ça va être le média qui va permettre qu'ils se rencontrent et qu'elle le découvre. Et assez rapidement, elle dit « J'ai toujours cru que tu m'avais abandonné ». Et elle découvre que lui, il n'arrête pas de la chercher.
Il a toujours cherché, c'est ce qu'il écrit sur le petit mot d'ailleurs,
voilà,
qu'il met dans le livre.
Qu'il met dans le livre. Et ça, ça change tout pour elle. C'est-à-dire que dans son clan familial, maternel et grand-maternel…
Elle est élevée par des femmes.
Elle a été élevée par des femmes.
Il n'y a pas de figure masculine.
Et le père était un salaud.
Oui.
Et elle découvre que la réalité est autre. Et alors, est-ce qu'on peut dire la fin?
Non, on peut laisser,
on va la laisser.
Les gens comprennent qu'à un moment ils vont se retrouver.
Il y a quand même une issue possible, mais qui est différée.
Qui est différée, effectivement.
Pour en revenir à la façon dont il se rend compte que c'est sa fille, il y a quelque chose aussi dans le visage de l'enfant, de cette toute jeune fille, puisqu'elle est à peine ado, qui lui rappelle sa fille de 3 ans quand même, avant même qu'il n'entende qu'elle s'appelle,
Lily.
D'emblée, il commence à avoir…
Il y a quelque chose d'inconscient qui passe, effectivement.
Un doute. Et après, bon, il est là à faire, j'allais dire, à tourner autour. Il ne peut pas tourner autour physiquement, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, Paul l'a bien décrit, cette façon d'essayer de créer, si ce n'est un lien, au moins d'arriver à parler. Parce que dans les taxis, encore une fois, il faut se replonger aussi dans la culture et dans la société japonaise. On voit bien quelques courses de taxis dans le film. À aucun moment, oui, le passager ne parle au chauffeur. C'est pas du tout comme en France.
On n'est pas à Paris, là.
À Paris, c'est une conversation qu'on a avec le chauffeur de taxi. Tandis qu'au Japon, non. On monte, on se déplace d'un point A à un point B, on descend, on paye, on descend, c'est fini.
Chacun reste à sa place.
Exactement.
Il n'y a pas de communication entre…
Même si, après, les passagers vivent leur vie, puisqu'à un moment, il y a un couple qui s'embrasse, et il y a un groupe de jeunes gens qui font la fête, un autre qui s'endort.
Le chauffeur n'est que le chauffeur.
Exactement.
Ouais. Alors, il y a une chose, on l'a dit un petit peu au début, c'est que lorsqu'ils se rencontrent, elle est sur des béquilles.
Oui.
Et elle a une jambe dans le plâtre.
Oui.
Les béquilles, on voit qui ça peut être, la mère et la belle-mère. La jambe qui est dans le plâtre, on voit ce qui lui manque, parce que ça s'appelle une part manquante.
Oui.
C'est un membre
oui.
manquant. Et le membre manquant, évidemment, c'est le père. Et juste pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent que la fin, qui peut avoir l'air très dure, et elle est très dure.
Elle est très dure.
Et elle est injuste, même.
Oui.
Mais la fille est à nouveau sur ses deux jambes.
Oui.
On n'en dira pas plus.
Mais je pense que…
Oui, c'est important.
C'est important de noter ça, parce que ça aurait très facilement pu basculer ce film dans le truc de la masculinité toxique, parce qu'on voit qu'il a pu être violent quand même.
Oui. On ne sait pas les raisons du divorce.
Non, on ne sait pas. On sait qu'ils se disputaient.
Il y a un divorce entre les deux époux, mais…
Il n'a pas été acté.
Il n'a pas été acté, c'est ce que j'allais dire.
Ils n'ont pas divorcé.
C'est le seul moyen qu'il a, et il le répète sans arrêt, d'avoir une chance de revoir sa fille, d'être toujours marié.
Et considéré comme le père.
Et toujours considéré comme le père. Une autre chose aussi importante, aussi je parlais du décor de la ville, c'est aussi la musique.
Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de l'ambiance tout à l'heure. On le voit dans la bande-annonce.
Et cette musique, c'est une espèce d'électropop qui monte, un peu enveloppante. Et puis, il y a un moment dans le transport de passagers qui sont état furieux d'ébriété.
Il n'y a que Je t'aime en japonais.
Voilà, il y a Johnny qui interprète Que je t'aime en japonais, qui est beuglé par les deux passagers qui connaissent parfaitement les paroles.
Alors, je l'ai dit, Guillaume Senez est franco-belge. Il habite à Bruxelles, il est né à Bruxelles. Comme un certain Jean-Philippe Smet, connu sous le nom de Johnny Hallyday, qui est belge aussi, et franco-belge. Ce thème de la parentalité des enfants comme ça, il a déjà été traité au cinéma, Paul Dimas.
Oui.
Je pense à Kramer contre Kramer, par exemple.
Oui.
Mais il y en a d'autres.
Il a été traité aussi par Guillaume Senez.
Voilà, mais
on le disait
entre les sociétés comme ça, françaises et japonaises, je ne suis pas certain. Alors qu'il y a beaucoup de couples mixtes franco-japonais qui sont confrontés malheureusement à ces situations. Et il s'est beaucoup inspiré de cas réels, hein, évidemment.
Cas réels. Dans le cas de Jay, il y a aussi le fait, ce qu'on voit dans la douleur qu'il ressent de l'absence de sa fille, c'est qu'il habite une maison qu'il avait achetée et dans laquelle ils vivaient tous les trois ensemble. Et il a laissé la chambre de sa fille telle qu'elle était quand elle est partie à 3 ans. Il n'en a même pas fait le ménage.
Ouais. Ça, c'est assez typique des gens qui ont mal à accepter un deuil ou accepter que...
Et quand il se trouve que...
C'est un espace sacré pour lui.
Oui, son amie, là, Jessica, qui est dans le même cas que lui, qui se retrouve à dormir chez lui pendant son absence alors qu'il est parti travailler. Elle s'est levée, elle est tombée sur son animal. Qu'est-ce que c'est,
un singe.
Oui. Qui était aussi un singe que connaissait sa fille.
Oui.
On se demande comment il peut être aussi vieux.
C'était l'animal de compagnie. Oh ben, un singe qui a 9 ans, c'est 10 ans, c'est possible.
C'est très possible. Toujours est-il, pour montrer combien c'est important pour lui cet endroit, c'est que... Il se trouve qu'elle va se lever, puis finalement, de l'endroit où elle dort, et elle découvre la chambre, et elle s'endort dans le lit de la petite. Et la première chose qu'il fait quand il voit qu'elle est dans la chambre, il la vire.
Oui. Bah oui.
Ah, oui, c'est un espace, un espace sacré.
L'espace sacré. Alors le singe, je me suis demandé si c'était pas un petit clin d'œil. Je dis, qu'est-ce qu'il faut avec un singe comme animal de compagnie? C'est peut-être courant au Japon, je ne sais pas. Et je me suis demandé si c'était pas un petit clin d'œil au film Un singe en hiver, où il y a aussi Belmondo cherche sa fille qui lui a été enlevée.
Peut-être.
Ah, écoutez, on va en rester là pour une part manquante. Il faut maintenant aller voir ce film. C'est un beau film, je trouve.
Oui, c'est très émouvant. Très beau film.
À l'ABC, à Toulouse ou ailleurs dans notre région. Je rappelle que vous pouvez parler de ce film de vive voix avec Paul et Louis-Marie mardi prochain, le 19 novembre, lors de leur ciné-parole à 14h30 à l'ABC. Il est temps de faire une petite pause musicale dans cette émission avant que nous parlions du Petit Monde de Don Camillo. Premier volet de la célèbre série avec Fernandel dans le rôle principal. Celui-ci, le premier ayant été réalisé par Julien Duvivier. Voici le thème principal de ce film, composé par un certain Alessandro Cicognini.
Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne pour la seconde partie de Vivante Église, toujours avec Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Nous allons donc nous replonger dans Le Petit Monde de Don Camillo, film franco-italien réalisé par Julien Duvivier en 1952. Et il est important de le rappeler parce que ce grand cinéaste qu'était Duvivier a tourné les deux premiers volets de la série, les deux suivants l'étant par Carmine Gallone et le cinquième et dernier, donc un million en URSS, par Luigi Comencini. Je rappelle que ce personnage de curé bagarreur qui parle avec le Seigneur a été créé par le romancier Giovannino Gualeschi et porté donc à l'écran par Julien Duvivier, avec la complicité de l'écrivain René Barjavel pour les dialogues en français. Ça a aussi son importance. Avant qu'on parle du petit monde de Don Camillo, je voulais savoir ce que représentait cette série pour vous, dont nous avons tous vu et revu les épisodes à l'occasion de multiples rediffusions à la télévision. Paul Dima.
Alors, c'est un film qui a une intrigue assez faible, voire un peu inexistante. C'est une suite de confrontations entre des braves gens du même village. Il y a le clan des communistes, mené par le maire communiste de la commune, et puis le clan des cathos. Ces deux clans sont en même temps très très typés, mais en même temps ils sont un peu poreux, au sens que, oui, bon, on est communiste, mais on fait baptiser l'enfant. Le curé est un peu raide sur ce qu'il faut faire et tout, mais il se compromet aussi en donnant le coup de poing. Voilà, donc c'est une guerre
picrocoline, on pourrait dire.
Un peu, oui. Un peu picrocoline, et qui révèle chez le réalisateur une espèce de, pas de mépris, mais de distance par rapport aux idéologies présentes. C'est-à-dire que, bon, il y a ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, et puis après, bon, on s'arrange.
Après, il y a la réalité du quotidien.
Voilà, comme.
Et puis aussi le fait qu'ils sont tous passés par la même école, ils sont tous connus à l'école communale, ils ont eu la même institutrice.
Et il y a une grande vénération pour les personnages principaux, l'institutrice qui.
Mais c'était comme ça dans les villages. Bon, je suis assez âgé pour avoir connu un petit peu ça, dans les villages, les personnages importants, c'était le maire, c'était le curé
et l'institut.
C'était l'institut et le docteur, souvent. Voilà. Oui. Alors, les personnages principaux, Louis-Marie Solaire.
Les personnages principaux, sont essentiellement, et ça tourne autour d'eux.
Ils sont tous très hauts en couleur.
Tous très hauts en couleur, chaque fois qu'on les voit à l'écran, ça pète, mais tout tourne autour de Pépone et Don Camillo, c'est-à-dire le maire et le curé du village. Et en fait, le propos même du film, et des films, mais puisque c'est une série de films, vous l'avez dit, Eric, le propos, c'est l'Italie elle-même. Hein, c'est là-dessus qui est centré.
Dans les années 50.
Exactement. Et on peut repenser, on peut faire le parallèle avec un autre auteur. C'est une façon de faire le portrait d'une nation au travers de la vie d'un village. C'est Astérix. Goscinny, en 59, 7 ans plus tard, crée un village qui cristallise ce qui se passe dans l'ensemble de la nation. Alors, d'une certaine façon. Alors, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de curé, mais il y a des personnages importants.
Non, mais l'église de Don Camillo peut ressembler au village gaulois assiégé.
Exactement. Il y a tout ça. Et puis, alors, évidemment, historiquement, c'est l'opposition du communisme. On est sortir de la Deuxième Guerre mondiale.
Le petit monde de Don Camillo, on est en 1946. Le début, élections viennent d'avoir lieu. Oui. Pépone vient d'être élu. Les communistes sont en train de parader, évidemment, de défiler dans le village. Don Camillo est fou furieux. Et il parle avec le Christ, qui essaye de le calmer un petit peu quand même.
Oui, le Christ est très...
Il est très important parce que Don Camillo peut avoir des dialogues avec le Christ.
Oui, et le Christ n'est pas tendre non plus avec Don Camillo.
Pas du tout, même.
Quand il franchit...
Il lui fait souvent la morale.
Il lui fait la morale, oui. Il dit non, on ne tape pas avec les mains. Hein.
Oui.
Alors, et Don Camillo dit... Oui, après il dit oui, mais avec les pieds, et il donne un magistral coup de pied.
Les mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Et donc Camillo répond, les mains sont faites pour bénir, mais les pieds. Il botte le train de ce pauvre Pépone qui est à genoux sur le prie-dieu, qui est en train de prier.
Après s'être confessé.
Ce qui est assez lâche d'ailleurs.
Pour en revenir au contexte historique, puisque vous l'avez dit, c'est la rivalité du Parti communiste et de la démocratie chrétienne, donc qui est reproduite au travers de ces deux personnages, Pépone et Don Camillo.
Alors, au village, vous parlez de démocrates chrétiens, il y a même des monarchistes.
Hein. Oui. Mais les rivaux politiques, en tout cas Pépone et Don Camillo, de temps en temps, sont capables de compromis.
Complètement, oui.
Pour le bien commun.
Exactement.
Oui, toujours.
Pour le bien commun.
Oui.
Ils arrivent à se réconcilier pour le.
Parce qu'il faut reconstruire quand même.
Ouais.
L'Italie est très très mal.
Elle est très pauvre. On voit d'ailleurs le village. Il y a quelques gros propriétaires terriens qui demeurent. Mais après, le reste, ils sont chômeurs. Alors, c'est des paysans très très pauvres. Mmh. Et d'ailleurs, dans le premier volet, il y a une histoire d'amour entre un fils de paysan pauvre qui fait partie de la bande à Pépone, donc qui est communiste, et puis la petite fille d'un gros propriétaire. Les familles sont voisines, il y a juste un mur qui sépare les deux propriétés, et il y a un trou par lequel
c'est
Roméo et Juliette.
Roméo et Juliette, les Capulet.
Avec les deux familles qui s'opposent et qui ne veulent pas entendre parler de cet amour, évidemment.
Ah, évidemment.
Mais la maîtresse.
Alors, ça, c'est un personnage important dans le premier. Oui. Elle n'apparaît d'ailleurs que dans le premier parce qu'elle va mourir.
Elle va mourir à la fin.
À la fin. La vieille institutrice Christina, qui est monarchiste, hein, vraiment. Elle n'en démord pas. Mais que ses anciens élèves, qui aujourd'hui se retrouvent au conseil municipal avec Pépone, vont quand même voir, même s'ils savent qu'elle ne les apprécie guère, parce que nous, on ne sait pas écrire et il y a beaucoup de choses à remplir, il faut faire des comptes rendus.
Et elle reste pour une autorité aussi.
Ah oui, il y a un respect extraordinaire.
Un respect extraordinaire.
Cette femme qui a 85 ans et qui les accueille et qui accepte de les aider. C'est toujours comme ça. On ronchonne, mais on aide quand même les autres.
Mais oui. Oui, parce que dans tous les cas, on agit pour le bien commun. Alors, plutôt que de rire de l'autre, on rit ensemble de nous. C'est-à-dire qu'on stigmatise personne. Bon, il y a l'histoire d'amour, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, on se tape dessus, mais finalement, on en rit.
Oui. Oui, oui, et puis on sait qu'on se rend les coups et on reste du même village et il faut avancer. Alors il y a l'évêque aussi qui arrive parce qu'il y a une pétition.
Enfin, là, lui, il ne se rend compte de rien, par contre.
Ah non, oui. Il est au-dessus de ça. Et il admire d'ailleurs, il y a une scène qui est assez rigolote, où il convoque quand même Don Camillo parce qu'il est un peu quand même hors... comportement normal d'un curé.
Curé qui se bagarre avec ses
oies. Oui, c'est ça. Et alors, quand il arrive au palais épiscopal, il lui dit, vous êtes un peu violent quand même, et tout, bon. Et puis en même temps, il lui dit, cette table-là, vous pouvez la soulever? Une table énorme. Alors, Don Camillo prend la table, et il la jette, et la table éclate en mille morceaux, et là, l'évêque est subjugué. Donc, il a un curé pas ordinaire. Mais, il est comme ça. Et... Alors, il lui dit quand même, je ne sais plus ce qu'il lui dit, mais bon, il sait qu'il est aimé aussi de sa paroisse.
Oui, oui, tout à fait.
Ce qui tient aussi au film et à la série, mais en particulier à celui-ci, vous l'avez dit, Paul, parce que l'histoire, le petit monde de Camillo, on gravite dans ce monde avec ses historiettes, en particulier Roméo et Juliette, mais après, le fil de l'histoire, c'est on suit le quotidien de ce village, Brescello, qui existe. Hein,
Absolument. Oui, oui. Et comme le personnage de Don Camillo existait. Guareschi s'est inspiré d'un prêtre qui s'appelait Camillo Valotta, qu'il a rencontré lorsqu'ils étaient prisonniers tous les deux pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce Camillo Valotta lui a raconté sa vie de prêtre dans le village où il était et les démêlés qu'il avait avec un maire qui s'appelait Pépone. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment inspiré
de personnages réels.
Réels, bon, romancés bien sûr après.
Ce qui tient beaucoup, pour en revenir au succès du film, outre le fait des situations qui sont drôles, c'est la complicité finalement des deux acteurs qui sont devenus des amis, Gino Cervi en Pépone et Fernandel.
Oui, d'ailleurs, quand Fernandel est mort, Gino Cervi a refusé de poursuivre la série avec un autre Camillo que Fernandel.
Oui. Oui, puisque c'est au cours du tournage du cinquième qui n'a pas pu s'achever parce que Fernandel
est
décédé. Ils ont d'ailleurs joué dans d'autres films ensemble.
Oui.
Pas remarquable, il y a Le Grand Chef.
Et... C'est un grand acteur en Italie dans les années 60.
Et Le Bon Roi d'Agobert, 60, où là, ils inversent les rôles.
Oui, exact.
C'est Fernandel qui est le roi et Cervi
qui est Saint-Éloi. Pour la petite histoire du film, initialement, ce n'est pas Fernandel qui devait être Don Camillo.
Non.
Oui. C'était Gino Cervi qui devait être Don Camillo. Et Guareschi lui-même, donc l'auteur de la série des livres, Don Camillo, qui devait être Pépone. Et Duvivier, à qui on avait confié la réalisation, a dit non, moi cette distribution, ça ne me va pas, il me faut un autre Camillo. Donc Gino Cervi s'est retrouvé à jouer Pépone, et c'est Jacques Morel qui initialement devait jouer Don Camillo, et il n'a pas pu, parce qu'il était sous contrat avec Sacha Guitry pour je ne sais quel film, ce qui fait qu'il a refusé d'ailleurs, il a regretté toute sa vie, évidemment, et c'est Fernandel qui a été approché, et on n'imagine pas aujourd'hui quelqu'un d'autre.
Hein. Bah non, chaque fois qu'on raconte ce genre d'histoire, quel que soit le film, qu'un acteur aurait dû interpréter un personnage, et finalement c'est un autre qui l'interprète à sa place, et que le film a un succès retentissant, les exemples sont nombreux dans l'histoire du cinéma, on ne peut imaginer que Gino Cervi en Pépone et Fernandel en Don Camillo. C'est le film français qui a, jusqu'à La Grande Vadrouille, qui a eu le plus grand succès.
Près de 13 millions d'entrées en 52.
Auprès du public français.
En 52,
c'était énorme.
Et même international. Et en 52, il a première place du box-office devant Violette Impériale et Fanfan la Tulipe. Philippe, fringant.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est le rapport, enfin l'image qui est montrée, à cette période-là, le rapport des clans dans le village, mais de la société italienne, qui à la fois, on peut être communiste, Et il y a les chrétiens, et il y a, comme
communiste à l'église.
Oui, il y a, voilà, on baptise quand même, le maire communiste vient faire baptiser son enfant. C'est pas possible de faire autrement.
Et oui, parce qu'il y a quand même le poids des femmes qui, elles, sont restées.
Ah ben oui.
Même si elles sont mariées des communistes, l'église, ça compte quand même. Hein.
Absolument.
Et le mariage, ça compte aussi. Hein. Il faut se marier à l'église.
Elles ont, alors elles sont en arrière-plan, mais avec beaucoup de pouvoir.
Ah ben énormément.
Oui. C'est-à-dire que là, le mari, il peut faire tout ce qu'il veut. Le mari péponne avec sa politique et tout ça.
Mais
il n'empêche
maison,
que mais... à la maison, c'est pas lui qui commande.
Non. Sa femme n'a pas du tout peur de lui.
D'une certaine façon, du côté de l'Église, c'est pareil. Il y a donc Camillo qui a envie. Alors, il est toujours prêt à aller au combat.
Lui, c'est le Christ qui le
tempère. Et le Christ, il dit donc Camillo, non. Et il se soumet. C'est-à-dire que le Christ a un rôle régulateur par rapport à sa fougue et sa volonté de défendre le christianisme.
Oui, c'est-à-dire que souvent le Christ dit à Don Camillo, j'aimerais t'y voir si tu étais à leur place. C'est facile pour toi, toi tu es prêtre, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme,
oui.
Tu n'as pas besoin de chercher de l'argent pour faire bouillir la marmite, comme on dit. Et il lui dit souvent ça, d'ailleurs. C'est effectivement un Dieu qui est très très bon, enfin c'est un Christ qui est très très bon et très compréhensif.
Mais Don Camillo est éruptif, mais un brave homme.
Il a un très bon cœur, comme Péponne. D'ailleurs, c'est pour ça que ça, entre eux, ça fait des étincelles, c'est qu'ils se ressemblent trop.
Oui.
Parce que pour tout le monde, ils sont de farouches adversaires, de temps en temps, quand ils se voient dans le privé, ils s'arrangent. Et quand il y a des affaires à régler, et ben ils se mettent d'accord parce qu'ils savent qu'il faut le faire, parce que c'est pour le bien public. C'est ça qui est passionnant, qui est intéressant et qui rend, même si le film maintenant a ce goût un peu suranné, évidemment.
Parce qu'il
est le témoin d'une époque complètement révolue.
Absolument, c'est le monde d'avant.
C'est
peut-être aussi pour ça que ça repasse souvent, parce qu'il y a une certaine nostalgie, je pense, pour beaucoup de gens, de ce monde-là. Il y avait deux camps qui étaient bien identifiés. On pouvait se taper dessus, mais on arrivait à se réconcilier sur l'intérêt général. Quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui, en France, là je reviens en France, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, quand même. Il n'y a plus le respect de l'adversaire.
Et les questions, le partisan du communisme solidaire façon Péponne et le catholicisme social de Don Camillo, on peut se poser la question, à l'heure actuelle, lequel des deux a gagné?
Oui.
c'est compliqué de répondre, là.
Oui, ça se passe peut-être en dehors des deux.
Oui, c'est sûr.
Ouais. Alors, je disais, effectivement, on voit l'Italie des années 50, on voit aussi les paysages d'Italie. Il y a un autre, ce n'est pas un personnage très important dans le film, c'est le fleuve. Le fleuve, le Pô. Très, très important, la peur des inondations. D'ailleurs, il y a un des épisodes où le village est inondé. Ça représente peut-être un peu la colère de Dieu ou la colère possible de Dieu, ce fleuve-là. Est-ce que vous trouvez que parce que c'est l'image qu'avait Guareschi, qui n'est pas fausse d'ailleurs, que c'est un film anticommuniste, que c'est une série anticommuniste?
En tout cas, il faut repenser qu'à l'époque, c'était l'URSS de Staline, quand le film a été tourné. Donc, on peut penser, raisonnablement qu'il pouvait l'être.
Oui, en tout cas, c'est l'image qu'il avait. Après, la restitution, parce que Duvivier, c'était plutôt un des grands cinéastes du Front populaire. Il faut rappeler La Belle Équipe, tout ça. Et Barjavel. Alors, Barjavel, pour le situer politiquement, parce qu'on n'en a pas trop parlé. C'est important, les dialogues de Barjavel dans cette histoire, qui était l'ami de Louis-Ferdinand Céline. C'est pas connu, mais il faut quand même le rappeler. Et qui est un auteur de science-fiction. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi c'est lui qui a été sollicité pour faire les dialogues. Ça peut paraître surprenant comme ça.
Il avait écrit Ravage déjà à l'époque, je crois.
Oui, je pense, voilà. Et Guareschi donc avait cette image d'anticommuniste. D'ailleurs, Pasolini ne pouvait pas le voir, il le traitait de fasciste. Notre dernière émission, là, on avait fait Uccellacci et Uccellini, je repense à Pasolini à l'instant. Pasolini et Guareschi, ce n'étaient pas du tout des amis. Souvent, Péponne est tourné un peu en ridicule quand même. Les idéaux communistes peuvent être tournés un peu en ridicule. Après, il montre le bon cœur que peuvent avoir les personnages.
Mais c'est aussi l'excès qu'on fait des idées et des propos. C'est-à-dire qu'on pousse à l'extrême une idée sans réfléchir vraiment à ce que c'est, à ce que ça représente. C'est surtout ça.
Et si ça va dans le sens de l'intérêt général.
Exactement.
C'est plutôt un film anti-idéologique, en tout cas,
Et en même temps, je dirais que le côté comédie, par opposition de type très 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 marqué et poussé jusqu'au bout, comme on vient de le dire, permet aussi de voir la complexité des choses.
Oui.
Et c'est comme un peu un jeu de marionnettes, ou c'est un peu comme dans La Grande Vadrouille, qui vient de repasser à la télé et qui est vue. Eh bien, ça dit des choses, c'est-à-dire qu'on en rit, Mais parce qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose de ça dans la réalité. Et ça, c'est le côté très intéressant de la comédie, qui est révélatrice en même temps de ce à quoi on tient.
Souvent, ça tient même de la farce, hein, de la farce moyenâgeuse un peu. D'ailleurs, les deux personnages auront quelque chose de médiéval, je trouve, les deux, là.
Oui. Et alors, ce qui est intéressant aussi, pour montrer ce qu'est le film, c'est que, en fait, le film a deux versions originales.
Oui.
Puisque c'est des acteurs français et des acteurs italiens, donc il y a une version originale française et une version originale italienne.
Et les scènes ont été tournées deux fois, une fois en français, une fois en italien.
D'ailleurs, les dialogues, j'ai bien dit, Barjavel fait les dialogues français, donc un autre dialoguiste pour la version italienne, donc les dialogues sont peut-être un peu différents.
Et il y a des nuances, il paraît, entre les deux versions.
Pour la petite histoire, c'est Jean de Bucourt qui prête sa voix au Christ,
oui.
Et dans la version américaine, c'est... Orson Welles.
Orson Welles, oui.
Orson Welles en Jésus-Christ, qui parle à Don Camillo.
N'est pas Dieu qui veut.
Exactement.
Orson Welles, qui était un grand admirateur des films de Marcel Pagnol, donc sans doute de Fernandel, donc c'est peut-être pas si étonnant que ça, finalement.
Oui, oui.
Et puis Orson Welles en Christ, c'est bien, je trouve.
Oui,
pour la voix du Christ, c'est pas mal. Le moment est venu de conclure cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que vous animez ensemble la séance du Ciné-Parole consacrée à Une part manquante, mardi 19 novembre, mardi prochain, donc à 14h30 à l'ABC, où le film est actuellement à l'affiche. Je rappelle aussi à nos auditeurs cinéphiles qu'ils ont rendez-vous les mercredis à 19h sur Radio Présence avec N'oubliez pas l'ouvreuse, l'excellente émission du non moins excellent Louis-Marie Solaire. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Merci à tous de votre fidélité à notre écoute. À la semaine prochaine.